Dans l'imaginaire occidental, l'évocation de la médecine traditionnelle en Afrique suscite encore trop souvent l'image de remèdes pré-scientifiques douteux, de plantes magiques ou du recours à la sorcellerie. Pour Mgr Mpenda Watu, sous-secrétaire du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé, la vérité est tout autre.
La vérité, c'est que 80% d'Africains s'adressent encore aujourd'hui à la médecine traditionnelle. Les mamans, par exemple, avant d'entrer dans des familles, de devenir épouses, et suivent un cours de médecine traditionnelle pour les 5, 6, 7 pathologies courantes pour leurs enfants. Beaucoup de mamans savent se débrouiller, elles savent aller chercher la plante, comment soigner son enfant, des problèmes de diarrhée, des problèmes de constipation, tout ça. Alors nous avons le problème des gens qui essaient de lier un peu ces pratiques à des incantations, à des formules magiques. Et alors là, je crois que c'est important de distinguer, disons, ce qui pourrait être la sorcellerie, pratique négative de magie, avec vraiment la médecine traditionnelle, qui a l'avantage de ne pas être coûteuse, donc le coût est supportable. Et aussi, c'est la médecine qui est plus proche des gens. Et parfois, vous avez l'hôpital à 100, 200, 300 kilomètres. Il y a beaucoup d'Africains qui, à la naissance, ils n'ont jamais été assistés par un infirmier qui a étudié la médecine occidentale et qui meurt sans avoir jamais vu un médecin. C'est ça la réalité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je pense qu'il faut, à commencer par les Africains même, qui n'aient pas de complexe. Parce que c'est vrai, on est formé à l'occidental, on a la culture occidentale. Mais on ne peut pas oublier qu'avant l'arrivée de toute la civilisation occidentale, les gens quand même se faisaient soigner. Donc ils utilisaient cette médecine. Alors, il faut qu'on commence petit à petit à introduire aussi, que nous introduisions dans nos hôpitaux, nos structures de santé, cette médecine-là. Parce que c'est une médecine qui reste encore un peu à l'écart. Il y a même des chrétiens qui pourraient se demander si vraiment cette médecine est compatible avec leur foi, leur appartenance à l'Église. Parce que pratiquement, nous ne la retrouvons pas dans nos structures. Il faut faire un travail, certainement, auprès du gouvernement, auprès des ministères, auprès surtout de la jeunesse. Commencer à sensibiliser les jeunes pour planter, pour faire des jardins de plantes médicinales. Et puis pour la recherche aussi, parce que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. Prenez il y a des maladies, le sida, mais vous avez aussi maintenant la tuberculose ultra-résistante. Il y a de nouvelles pathologies pour lesquelles vous avez la malaria qui devient très, très résistante. Et ça devient de plus en plus difficile de trouver des médicaments vraiment efficaces pour soigner la malaria. Or, nous savons, de la Chine à l'Afrique, à l'Asie, ils ont quand même des plantes qui pourraient nous réserver de très, très bonnes surprises. Donc, je crois que nos évêques, pendant le synode, ils devront insister beaucoup pour que le Saint-Père souligne ce point. Car l'Église d'Afrique doit être aussi une Église inculturée. Donc, inculturée au sens où ce qu'on a déjà, il ne faut pas aller le chercher ailleurs. Il faut peut-être enrichir ce qu'on a. Bien sûr, on peut introduire d'autres éléments de la médecine occidentale, toujours pour améliorer les choses.
Les politiques des grandes firmes pharmaceutiques en termes de protection des brevets, en termes de rentabilisation, des coûts de recherche autour des médicaments, sont souvent accusées de retarder ou voire même d'empêcher la résolution des problèmes liés à la santé. Où en est la situation aujourd'hui des rapports entre l'Afrique et les grandes firmes pharmaceutiques ?
On a eu la conférence d'Alma-Ata, il y a peut-être une quarantaine d'années, qui affirmait déjà ce droit des populations à accéder aux soins, aux médicaments essentiels. Et malheureusement, encore aujourd'hui, ce n'est pas la réalité, parce que les médicaments, comme on dit, de marque, ne sont pas accessibles. Et malheureusement, pour les maladies qui sont très courantes en Afrique, les maladies orphelines, il n'y a pas beaucoup de recherches, il n'y a presque pas de recherches. Il n'y a pas donc de nouveaux médicaments, comme cela advient, je prends par exemple pour ce qui est de la cardiologie, car dans les pays du Nord, disons, la pathologie prédominante, ce sont les maladies cardiovasculaires. Alors, comme les populations de ces pays peuvent se payer ce luxe, alors la recherche est très avancée. Et tous les 6 mois, il y a de nouveaux médicaments. Et malheureusement, aujourd'hui, on préfère facilement développer des produits cosmétiques qui sont plus rentables, donc dans les pays riches, que des vaccins, par exemple, contre la malaria, qui, en termes numériques, fait plus de décès de morts, peut-être, sinon autant que le sida, mais dont on parle peu. Alors, l'Église, l'effort de l'Église, c'est essayer de faire l'avocat pour qu'on essaie aussi de prendre en considération les besoins des populations pauvres.
Merci. Alors, on ne peut évidemment pas faire l'impasse sur le sida. Comment s'explique la diffusion toujours grandissante de la maladie sur le continent africain ?
On ne peut pas exclure le problème de la pauvreté encore. À ce sens-ci que beaucoup de prisonniers déjà se passent le virus, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'avoir chacun sa lame de rasoir. Ça semble banal, on n'y pense pas, mais ça arrive, ça. Vous avez les seringues, souvent, les seringues qu'utilisent nos infirmiers, infirmières. Souvent, on n'a même pas un stérilisateur. Donc, la même seringue est utilisée pour piquer 2-3 personnes, 3 malades. Nous avons le problème de la guerre des conflits. Il y a des soldats, souvent, ils n'ont pas toujours une très, très bonne renommée pour les mœurs, comme on sait. Prenez des guerres comme la guerre qui est du Congo, où vous aviez 7-8 armées sur un territoire. Et alors, on sait après que le virus se répand, se diffuse. Alors, vous avez également, et surtout, je dirais, dans les villes, les bidonvilles, où pratiquement vous avez la promiscuité, certaines prostitutions. Et paradoxalement, c'est dans les villages qui souvent sont coupés qu'on a moins de cas du point de vue épidémiologique de sida. On a trouvé très très peu de pygmées, par exemple, qui étaient séropositifs. Ils vivaient pratiquement une sorte d'autarcie. Il y a plusieurs causes donc, qui concourent à la propagation de ce virus encore aujourd'hui en Afrique.